Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, le sermon sur la montagne. Septième partie, la prière royale.
Chapitre 6. Voilà, on va continuer notre avancement ou notre avancée dans cette étude sur le sermon sur la montagne. Et la fois dernière, nous avions évoqué les noms de Dieu. On avait fait une étude que l'on nomme étymologique, c'est-à-dire le sens, la signification des noms de Dieu. Alors simplement, en résumé, on avait évoqué que Jésus, dans ce passage, eh bien, avait pris ses disciples, et j'avais tout simplement noté que de toutes les sciences qu'un maître puisse enseigner à ses disciples, et particulièrement ce que nous représentons dans notre engagement chrétien, eh bien le summum, c'est la prière. Et nous voyons qu'à travers tout ce qui a été dit depuis que nous nous sommes réunis, c'est la septième fois, septième étude que nous faisons depuis eh bien, quelques mois, alors Jésus enseigne à l'homme comment Dieu veut être prié afin de pouvoir, dans son amour et dans sa puissance infinie, eh bien, l'exaucer. Le but de Dieu, c'est de nous exaucer. C'est pas de faire cette démarche de prier, je prie, et puis il ne se passe rien. Non, le but et l'enseignement que Jésus nous donne dans le sermon sur la montagne, c'est pour que nous puissions être comblés, que nous puissions rentrer dans son abondance à lui, et qu'en retour, nous puissions le louer, nous puissions davantage eh bien l'adorer, lui apporter eh bien notre adoration. La leçon suivante serait celle-ci, où Jésus pourrait nous dire et nous rappelle, apprenez à aimer, alors vous saurez tout simplement prier, et l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ qui est en vous, eh bien nous conduira, vous conduira dans la véritable prière qui attend et qui atteint, pardon, et qui est entendu dans le ciel, où là, eh bien, Dieu en réserve des trésors insoupçonnés. Que ce soit dans tous les besoins, nous allons le découvrir dans un instant, tous les besoins qu'un homme sur la terre, eh bien, auxquels il puisse aspirer, des réponses, des exaucements, des délivrances, en passant par la guérison de nos corps, en passant par les délivrances de notre vie intérieure, en passant naturellement par le nec plus ultra, c'est-à-dire le salut, et tout ce que nous allons découvrir à travers cette prière, prière d'une grande importance, essentielle, que Jésus nous a demandé de retenir. Alors nous allons le relire. Dans Matthieu chapitre 6, de 5 à 13, voilà ce que nous avons, ce que Jésus nous dit. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. » Et Jésus poursuit. Il nous donne la bonne manière. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Il nous montre maintenant ce qu'il ne faut pas faire. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. » Avec la comparaison de ceux qui se croient chrétiens mais qui ne sont que des païens, qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et de formidable. Voici donc comment vous devez prier, et c'est ce qui va faire l'objet de notre attention ce soir. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. L'Évangile nous offre le modèle de la prière par excellence, des choses à demander à Dieu, avec la certitude d'être exaucé. Je dis bien avec la certitude d'être exaucé. Et là, il y a comme un catalogue très restreint, mais infiniment varié, dans la pensée que l'Esprit peut finalement mettre dans notre cœur, pour que nous puissions avoir des réponses. Cependant, Jésus prend la précaution de nous rappeler quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit non de répéter sans fin les mêmes mots, mais de penser et de croire simplement à ce que l'on dit. Et Jésus dira et nous le rappellera en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, tout simplement. Le Notre Père renferme à lui seul l'essentiel pour être entendu de Dieu dans son aspect spirituel que nous allons décomposer maintenant. Il y a la relation avec notre Père céleste, puisque nous lui disons notre Père qui est aux cieux. Ce qu'il est, là où il est, au ciel. Son nom, nous l'avons vu la dernière fois. Son règne, sa volonté. Par-delà l'aspect spirituel, il y a également la délivrance de la puissance du mal. Parce que nous sommes confrontés dans un monde mauvais et nous-mêmes, nous sommes rachetés de ce monde mauvais. Ce qui veut dire que nous avons besoin de sa grâce pour vivre dans le bien et vivre le bien divin, le bien de Dieu. Dans son aspect moral, Jésus abordera dans le Notre Père la tentation. Il abordera une question essentielle et fondamentale pour tous les hommes, mais pour les chrétiens en particulier, c'est le pardon. Le pardon des offenses. Il est question de la justice. Il est question de la vérité, et dans son aspect physique, mais qui va bien au-delà de ce que Jésus nous dit. Il est question de notre pain quotidien, mais notre pain quotidien, c'est tout le reste aussi. C'est à la fois le travail, c'est notre santé, c'est notre équilibre, c'est tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Alors nous allons maintenant examiner en détail ces éléments. D'abord, ce qui se rapporte à Dieu lui-même. Quatre vérités primordiales. Qui est ce Père qui est dans les cieux? Qui est-il? Nous avons une position de fils puisqu'il se fait appeler Père. Donc nous comprenons dès lors que s'il nous demande de l'appeler Père, c'est que nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Son nom révèle sa personnalité divine et sainte. C'était l'étude que nous avons faite précédemment sur les noms de Dieu. Son œuvre et ses plans pour ou dans son royaume, sa volonté qui dévoile son autorité suprême, son autorité universelle et une autorité bienveillante. Il n'y a pas de mal en Dieu. Une autorité bienveillante. Et ça, c'est important de le souligner. Notre Père qui est aux cieux, on ne peut appeler Père quelqu'un. On ne peut appeler quelqu'un Père, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Nous avons tous eu un Père et une Mère, enfin un Père en tous les cas, puisqu'il est question de cette appellation, c'est parce que nous le connaissions. Nous le connaissons. Et c'est une appellation unique qui revient à Dieu seul. Notre Père qui est aux cieux. Nous avons eu des Pères sur la terre. Mais là, elle est unique, c'est celui qui est au ciel. C'est une appellation privilégiée dont l'accès autorisé nous est conféré que par notre foi en Jésus. Jésus le dit bien, que c'est par lui que nous devons accéder au Père. Jésus, personne d'autre, contrairement peut-être aux idées reçues, aux idées enseignées, qu'on pouvait parvenir à Dieu par toutes sortes de médiateurs ou d'auxiliaires ou toutes sortes d'autres moyens. Si je fais cette citation, elle vous rappellera notre véritable position et cette médiation unique de Jésus. Quand il est dit ceci, « Car vous êtes les fils de Dieu par la foi en Jésus. » Ouais. C'est bien Jésus qui nous fait connaître notre Père céleste. Dans Matthieu, au chapitre 11, verset 27, c'est Jésus qui parle. Il dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et nous savons que toute la révélation de la parole de Dieu, de la Bible, est particulièrement marquée par le Nouveau Testament, c'est que Dieu le Père a voulu se faire connaître par le Fils, ce Dieu incarné qui nous fait connaître finalement le Père. Dans Jean chapitre 1er verset 18, vous vous en souviendrez, il est dit ceci, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. » Et nous ne pouvons que nous réjouir et bénir le nom de notre Dieu, de notre Père céleste, de nous avoir donné Jésus pour connaître le Père et de le glorifier. Merci Seigneur, la révélation est complète, ta révélation est merveilleuse. Personne n'a jamais vu Dieu. C'était la question de Thomas, montre-nous le Père. Jésus de lui répondre, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous pouvons véritablement nous approcher de notre Père céleste, lui dire notre Père qui est aux cieux, parce que nous pouvons le faire dans la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. C'est simple, hein? C'est peut-être trop simple pour certains. C'est si simple. Alors, poursuivons par « Que ton nom soit sanctifié », ce que nous avons vu dernièrement. Je répète, la recherche de la gloire de Dieu est attachée à son nom. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons doit être à l'honneur de Dieu et que son nom que nous portons ne soit pas discrédité. Nous portons un nom magnifique. D'abord, nous sommes chrétiens. Il y a la racine de Christ dans ce nom. Mais nous sommes aussi fils et filles de celui qui règne, de celui qui est Seigneur, celui qui est souverain, eh bien, dans le ciel. Le nom de Dieu est sanctifié quand notre vie et nos actions sont réglées d'après sa parole, parce que c'est à travers sa parole qu'il se fait connaître à nous, et que nous marchons comme lui-même a marché, parce que c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable, ou les enfants du malin, les enfants du mal. Et d'ajouter ceci, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ce n'est pas la confession verbale qui est importante, mais c'est notre vie, tout entière. Et c'est ainsi que se font reconnaître, et ça ne trompe pas, ceux qui appartiennent à leur Père céleste et ceux qui appartiennent à cet autre Père, qui est appelé dans la Bible le Père du mensonger, le meurtrier. Les choses sont claires. Vient ensuite que ton règne vienne. Alors là, ça pose une question. Parce que comment les hommes qui répètent ces paroles, qui les répètent, comme Jésus nous a défendu de les répéter, y compris le Notre Père, que l'on répète, que l'on égrène là sur un instrument dont vous connaissez le nom, comment les hommes répètent ces paroles, comment ils envisagent cet événement inéluctable que ton règne vienne? Parce que c'est un événement qui ne manquera pas de venir. Nous le croyons de tout notre cœur. Alors, je pense que nous pouvons parler d'une ignorance totale de ce que cela signifie dans les faits présents et à venir pour des millions et des millions de personnes. Ils le disent, que ton règne vienne, mais est-ce qu'ils y croient? Est-ce qu'ils mesurent ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils disent, ce qu'ils répètent? Alors, autour de ce règne qui va venir, de ce règne qui vient, de ce règne qui n'est pas loin, il y a deux manifestations de ce règne que j'aimerais rappeler. D'abord, l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Elle est primordiale, elle est essentielle pour voir cette manifestation de ce règne divin. Dans Luc chapitre 17 et verset 20, je lis. « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » On le sait, ça. Les gens attendent quelque chose de transcendant, un événement qui va finalement être là, qui va bouleverser, naturellement. Le plus grand désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour ce faire, je dis bien dans ce but, il dévoile sa volonté par sa parole, offerte à notre foi, et déploie sa bonté sur celui qui y croit. Et cette manifestation de sa bonté se traduit par des guérisons, des délivrances et autres expériences, ce qui a pour résultat des convictions dans les cœurs, la repentance, la conversion et une vie nouvelle. Alors on comprend dans ce sens l'expression « que ton règne vienne » et moi j'ajouterais « que ton règne vienne d'abord dans les cœurs ». Le royaume de Dieu vient dans les cœurs avant de se manifester comme il va se manifester. Et quand les gens disent « que ton règne vienne » sans comprendre ce que ça veut dire, c'est que quelque part ils ne savent même pas qu'ils sont en dehors de ce règne. Ils ignorent totalement les conditions de ce règne. Ils répètent, tout simplement. Mais s'ils comprennent, et quand ils comprennent comme nous avons compris, comme l'Évangile nous a enseigné, comme le Saint-Esprit nous a convaincus, alors nous savons que le règne de Dieu, eh bien, vient d'abord dans les cœurs. Et quand nous, les chrétiens, nous disons que ton règne vienne, c'est qu'il est déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Il est caché. Mais il est déjà là. Alors on comprend qu'on peut dire, mais Seigneur, que ton règne vienne. Et on peut le dire avec d'autant plus de conviction et d'autant plus de force qu'il est déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, la deuxième manifestation de ce règne divin, c'est aussi le merveilleux ou le mystérieux retour de Jésus en gloire qui verra la fin du mal et la délivrance de l'Église, d'où nécessité de prier pour le monde perdu pendant qu'il en est encore temps. Puisque nous entendons cette parole où Jésus répète les derniers mots de l'Apocalypse, « Je viens bientôt ». Donc, deux phases. D'abord à l'intérieur de nous-mêmes, avant de le voir à l'extérieur. Et quand nous disons cette prière, « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, nous savons de quoi nous parlons, parce que déjà il est instauré, il a déjà été implanté, il a déjà été mis au fond de notre cœur. » Alors, quand les gens sont inconvertis et qu'ils prononcent ça, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils n'en portent pas, finalement, toute la compréhension. Maintenant, qu'ils le disent et qu'ils le comprennent, en le disant, que Dieu leur révèle que véritablement ce règne, ils commencent par eux-mêmes, alors c'est déjà quelque chose. Nous passons maintenant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel, comme elle est faite dans le ciel. » J'ajoute qu'il y a harmonie de la volonté de Dieu dans les cieux, dans le monde céleste, dans le monde divin. Aucun défaut, tout est parfait. Il y a l'harmonie. C'est pour ça, Jésus dira, comme dans le ciel. Quant à la terre, quant aux hommes de la terre, ils ont déclaré leur autonomie. On pourrait peut-être dire qu'ils ont fait sécession, pour ne pas dire rébellion. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 4, quand il dit ceci. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens ou comme des païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Il y a le monde harmonieux de cette volonté qui est là dans ce royaume des cieux, et puis sur la terre, c'est tout à fait différent. Mais cette prière est là pour engager finalement cette harmonie entre les ciels et la terre et le ciel. Parce qu'on s'aperçoit que lorsque nous regardons le monde et les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui, on peut parler de rébellion, on peut parler d'autonomie, on peut parler de sécession, hein, naturellement. Cela nous enseigne sur l'état d'esprit des hommes, vanité des pensées, absence de sagesse et de véritable intelligence, profonde ignorance des réalités spirituelles et endurcissement des cœurs. C'est ce que nous dit Éphésiens 4, du verset 17 à 18, ça peut être contrôlé. Ce qui amène les hommes à l'orgueil, à l'incrédulité et au rejet de Dieu. Et vous connaissez ce que nous dit le livre du prophète Ésaïe. Oh, Dieu dit à travers le prophète, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Donc il y a un désaccord. Et quand Jésus nous dit, « Quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel », c'est qu'il y a quelque chose qui se produit à ce moment-là. Il y a comme véritablement un désir profond qui monte des consciences, des cœurs en disant « Mais Seigneur, que ce qui se passe en haut, se passe aussi en bas. » Et nous voulons vraiment aspirer à faire ta volonté complète. Et le modèle qui est pris, c'est ce qui se passe là-haut. C'est ce que Dieu nous révèle à travers toute sa parole. Pour le croyant, il en va différemment, c'est qu'il s'agit de l'accomplissement de la volonté de Dieu qui passe par une volonté d'accord. Je me mets en accord avec Dieu. Je suis d'accord avec sa volonté. Il m'accorde avec lui. Je m'accorde dans ma vie avec sa volonté. C'est une volonté d'accord. Avec ce que nous savons être agréable au Seigneur. Alors on n'y arrive pas toujours. Parce qu'il y a toute l'humanité, il y a toute la nature, il y a notre péché, il y a notre vie tout simplement. Mais néanmoins, je réaffirme pour le croyant que je veux être d'accord avec ça. Ce qui plaît au Seigneur, ce qui est agréable au Seigneur. Et sa parole nous en donne la connaissance. Elle nous en révèle à la fois la connaissance et la signification. Et j'aime bien cette citation du psaume 119. Un homme qui écrit cela, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Parce que ta parole me révèle ta volonté et elle m'éclaire. Elle dégage mes ténèbres. Elle me délivre de mon obscurantisme, de mon entêtement aussi. Alors elle est une parole, elle est une lampe à mes pieds, sur mon sentier. Nous arrivons maintenant à cette autre proposition de Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est tout à fait légitime pour celui qui nous a créés dans cette dimension matière dans laquelle nous sommes, avec un corps dans la corporalité que nous vivons. C'est vrai par la grâce de Dieu, mais Dieu nous a donné aussi de tous les moyens autour de nous pour pouvoir finalement entretenir cette dimension corporelle. Et entre autres, le pain. Et cela au quotidien. Nous y revenons au moins 3 fois par jour au pain. C'est vrai. Alors ça, c'est l'école de la foi. Nous arrivons là dans l'explication de cette prière, ce condensé finalement de tous les besoins humains, de tout ce que les hommes peuvent aspirer, à l'école de la foi, c'est-à-dire nos besoins existentiels, qu'ils soient divers d'une manière ou d'une autre. Une chose que Jésus veut nous apprendre quand il nous dit « Donne-nous aujourd'hui, apprends-nous, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », le Seigneur veut que nous soyons, écoutez bien, ça peut être une délivrance pour ceux qui l'entendent, que nous soyons dégagés de l'inquiétude et du souci. Depuis les temps immémoriaux, les hommes ont travaillé pour avoir le pain quotidien. Ils se sont battus. Ils ont fait des choses qui étaient certainement bien, mais des choses aussi très mal, pour avoir ce pain quotidien. Ça implique beaucoup de choses, naturellement. Mais si nous nous tournons, si l'incrédule lui fait par lui-même, et il se dit, j'arriverai avec la force de mon poignet, j'arriverai avec mon intelligence, avec toute mon énergie. En tous les cas, le chrétien, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y mettre d'une autre. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous ne cherchons pas sur la terre, nous allons chercher au ciel tout ce qui est nécessaire. Nous allons chercher là-haut. Et Dieu voudrait que nous soyons vraiment délivrés de tous ces soucis du pain quotidien, de tous ces tracas et de l'insouciance, de l'inquiétude, pour que nous puissions véritablement vivre en paix, vivre dans le repos, dans sa paix et dans son repos. Vous savez, on a fait des expériences extraordinaires. Parce que quand on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, je peux vous dire que tout le reste nous est donné par-dessus tout. parce que nous avons compris que tant que nous voulons nous battre et que nous nous déchirons pour avoir le pain quotidien sur la terre, par nous-mêmes, avec nos propres forces, avec nos injustices et tout ce que nous voulons, eh bien, nous l'arrachons peut-être à la sueur de notre front. Mais quand on a compris qu'il faut aller chercher là-haut, ben, je peux vous dire que le Seigneur, eh bien, il nous le donne, et il nous le donne en abondance. Nous n'avons pas plus qu'il ne faut, mais nous avons ce qu'il faut. Et on a un contentement merveilleux de ce que, finalement, ce pain quotidien nous vient du ciel. C'est la manne, hein ? Elle descend du ciel, et ça, c'est quelque chose. Parce que Dieu veut que nous soyons, non pas des êtres inquiets, mais des êtres reposés, des êtres qui vont lui faire confiance et qui vont lui dire, « Eh bien, Seigneur, c'est toi qui pourvois tout mon besoin. Et tu m'enrichis, et tu me donnes l'abondance, parce qu'il l'a promis. » Pourquoi ? Parce que notre Père qui est dans le ciel dispose de tout. À nous de le savoir, à nous de le croire et de le lui demander. Et vous entendez cette parole qui résonne, « Demandez, et vous recevrez. » Ben oui, vous savez, on a vraiment compliqué les choses. L'évangile et le message que nous laisse Jésus, c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. C'est pourquoi Jésus fera référence, mais redevenez comme des petits-enfants au lieu de vous tracasser, au lieu de vous déchirer, au lieu de vous disputer, au lieu de faire des toutes sortes de choses. On devrait être comme des petits-enfants avec une foi toute simple, une confiance enfantine. Et il s'est donné à cela. Compter et dépendre du Seigneur en toutes choses. Retenons cette prière qui nous est laissée encore une fois de plus par l'apôtre Paul. Il dit ceci, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Alors ça, c'est formidable. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi vous attrister ? On en a parlé il y a un instant. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » La douceur mise en opposition avec l'agressivité, la combativité et toutes ces choses qui caractérisent finalement eh bien, parfois nos impatiences ou nos exigences. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il est proche parce qu'il revient, on en a parlé tout à l'heure, mais il est proche de nous finalement. Beaucoup plus proche que nous le pensons. Et l'apôtre ajoute, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ça le sens de cette phrase. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et d'ajouter un peu plus loin, toujours dans cette même épître, Paul dira, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Seigneur, merci de ce que tu as pourvu à notre pain quotidien. Et le pain quotidien, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est aussi eh bien, avoir du travail, avoir un bon travail dans lequel nous nous épanouissons. Pourquoi pas ? C'est encore mieux, hein, si on veut s'y épanouir. Avoir des conditions et des bonnes relations, peut-être aussi avec les autres, c'est avoir eh bien, tout ce bien-être, sans que ce bien-être nous fasse perdre la tête et nous fasse oublier celui qui est le donateur, pour nous focaliser uniquement sur le don. Beaucoup de chrétiens sont partis dans cette direction, c'est bien dommage. Parce qu'ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté le courant, finalement, de la bénédiction. C'est le donateur qui est important, c'est pas le don. Mais n'oublions pas de le remercier tous les jours pour les dons qu'il nous donne. Dieu est prêt à tout pour notre bien, mais n'oublions pas ce qui suit. Autre proposition, n'oublions pas ce qui suit. Et ce qui suit, c'est « Pardonne-nous nos offenses » comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est lié ensemble, hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a la bénédiction pour notre vie entière, pour tout ce dont Dieu veut combler notre vie, dans notre existence. Mais attention, ça vient après, mais c'est tellement important, pardonne-nous nos offenses, parce que nous aussi, nous voulons aussi et nous sommes désireux de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si vous le prenez dans le sens contraire, eh bien peut-être vous fermez les portes de la grâce et de la bénédiction. Vous remarquerez qu'il y a entre ces deux versets « Donne-nous aujourd'hui » et « Pardonne-nous nos offenses », il y a comme un jeu de réciprocité et de logique. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous péchons tous. Qui pourrait prétendre n'avoir jamais péché est au-dessus des autres. Nous péchons tous. Et pourtant, nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, nous avons besoin de ce pain quotidien. Nous péchons tous parce que nous blessons parfois et faisons du mal à Dieu et à nos semblables. C'est pourquoi c'est inscrit dans cette prière. C'est dit. Si nous voulons que le Seigneur nous exauce, nous bénisse, retenons que nos relations doivent être établies sur le principe de la bienveillance. Notre Dieu est bienveillant avec nous, mais nous devons aussi l'être autour de nous. De la bienveillance et de la miséricorde. Et je mets entre guillemets aussi, pour que Dieu nous pardonne, nous devons également pardonner. Et c'est logique. Si nous butons en disant « je ne lui pardonnerai pas, je refuse de lui pardonner, il m'a fait du mal et ceci » et que nous trouvions tous les arguments, que nous remuons ciel et terre pour trouver tous les arguments pour nous donner de bonnes raisons de ne pas pardonner, ben vous savez ce qui va se passer. C'est contre nous que nous allons travailler. Est-ce que nous avons pris conscience que nous allons travailler contre nous? Que finalement le ciel va se fermer, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas finalement eh bien là la gloire de Dieu. Surtout que refuser de pardonner, c'est peut-être aussi eh bien là déclencheur de l'amertume, de l'aigreur, voire de la haine. Eh bien, Dieu ne pourra jamais nous exaucer si nous avons un cœur rempli de haine. Ça, c'est une illusion. Hein. On peut se donner toutes les raisons possibles en disant « Oh, mais Seigneur, tu me bénis, et tu fais en abondance pour moi. » Ça, c'est faux. C'est un raisonnement qui ne tient pas. Et nous voyons que Dieu nous en fait un devoir. Pardonne-nous comme nous aussi. C'est un devoir de pardonner aux autres. Ce devoir, il est marqué dans Marc chapitre 11. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, justement, peut-être celle-ci en particulier, où nous allons utiliser les mots que nous sommes en train d'étudier, les phrases que Jésus nous a enseignées à dire à notre Père Céleste, alors, en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, mais pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et là, vous ouvrez tout à nouveau peut-être une rivière, une source ou un fleuve qui a été obstrué à cause de refus de pardonner. Et tout à nouveau, eh bien, Dieu va envoyer sa grâce. Parce que tout est grâce dans tout cela, naturellement. Et je rappelle que quand on sait dire dans la prière Père, eh bien, on peut dire frère. Si on ne peut pas dire frère, alors je ne sais pas quelle signification lorsque nous disons Père. Ça peut avoir. Si je dis Père, je dois être capable de dire mon frère. Et peut-être mon frère m'a fait du mal. Il m'a blessé, il m'a piétiné, il m'a laminé, mais il faut pardonner. Il faut avoir la capacité de pardonner. Alors quand on sait dire père, on peut dire aussi frère, car le pardon est aussi indispensable à l'âme que le pain à notre corps. C'est pourquoi Jésus dira, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, mais pardonne-nous. Oui, ça va ensemble tout cela. Et ensuite, ne nous induis pas en tentation. Le verbe induire signifie conduire vers ou pousser à. Comme s'il y avait une attraction. Quelqu'un qui nous force. Quelquefois, on n'a pas besoin d'être forcé longtemps. Hein. Mais c'est ça la signification du verbe induire. Si l'homme que je suis prie pour être délivré du mal, c'est que je suis conscient, c'est que je sais que je suis faible et vulnérable. C'est pourquoi je prie. Et je prie cette prière-là. Ne nous induis pas en tentation. Parce qu'à partir du moment où je prononce le Notre Père, y compris cette petite phrase, et que je me sens invulnérable, et que je me sens fort, alors je peux vous dire que je suis à côté véritablement de la situation. C'est pourquoi Jésus nous a mis dans le rappel de conscience que nous ne sommes pas grand-chose devant le mal et le malin, que nous ne sommes pas grand-chose devant le péché auquel nous pouvons si facilement succomber. Ce péché, comme le dira le livre des Hébreux, qui nous enveloppe si facilement. C'est pourquoi Jésus nous a dit, mais n'oubliez pas, dans cette prière royale, de dire ne nous induis pas, demander à ne pas être induit en tentation. conscient de notre faiblesse. J'ai donc besoin d'être secouru. Et Jésus nous enseigne la phrase qui convient pour que nous puissions être secourus. À noter ceci, la tentation provient de trois directions. Extérieure et spirituelle, c'est le tentateur. Intérieure et physique, c'est le monde et ses convoitises. Intérieure, ma nature, la chair et mes points faibles. Trois choses, je répète. Extérieure et spirituelle, c'est le tentateur, le malin, le diable. Voilà. Deuxième position, extérieure et physique, c'est le monde et ses convoitises, notre environnement. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Hein. Et puis intérieure, où là je ne peux accuser ni le monde, ni le diable, mais ça me renvoie à moi-même, c'est pourquoi il nous a enseigné ne nous induire pas en tentation. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, je suis à affaire, j'ai affaire avec ma nature, la chair, et puis tout simplement mes faiblesses. Pour dire encore que personne, et je prends un texte biblique, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Jacques d'ajouter au chapitre 1er, verset 15, « La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. » C'est pourquoi Jésus nous recommande de prier, de dire à notre Père Céleste, mais ne nous induis pas en tentation, « Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. » C'est pourquoi l'appel à l'aide est nécessaire. Et cet appel à l'aide permanent, nous péchons consciemment et nous péchons quelquefois par inadvertance. Mais c'est inscrit dans notre Père en bonne place pour nous montrer que nous sommes toujours faibles et que nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir tenir le coup. Et heureusement, parce qu'il y a longtemps qu'on aurait disparu de la circulation. Et ça, faut en être conscient. De venir avec beaucoup d'humilité, de venir avec beaucoup de modestie en disant « Seigneur, si aujourd'hui je respire, eh bien c'est encore grâce à toi. Si j'avais été placé dans d'autres conditions, des conditions d'un foyer peut-être difficile, un foyer d'alcool, de drogue, si j'avais été peut-être mis dans d'autres situations, mais est-ce que je ne serais pas devenu pire que ceux que peut-être sur lesquels je porte un jugement ? Je serais comme peut-être cet homme qui roule dans le caniveau ? Eh oui, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au jugement. Hein. Bénissons le Seigneur qui nous ait donné des conditions, qui ne nous est peut-être pas, où nous n'avons pas été entraînés par le courant de toutes sortes de choses. L'appel est nécessaire. Délivre-nous du mal, Seigneur. Avec tout l'arsenal que nous pouvons nous donner, il y a une chose qui fera la différence. C'est ma foi dans la grâce de Dieu. Et ma foi dans le sacrifice de Jésus, parce qu'il a été vainqueur du malin, du diable et du mal, de la mort et du péché. Délivre-nous du mal. Et je dis que notre part, en mesurant, en prononçant ces paroles, eh bien notre part c'est la sagesse. Et si nous disons que nous avons la sagesse, c'est que nous ne l'avons pas. Mais si nous prenons conscience que nous manquons de sagesse, comme nous dit Jacques, alors à ce moment-là, elle nous sera donnée simplement et sans reproche. Voilà. C'est-à-dire ne pas donner l'avantage au mal et lui ouvrir la porte. Seigneur, donne-moi ta grâce, donne-moi la sagesse. Et ça, nous en avons besoin tous les jours. On peut être bien disposé. Vous savez, il est dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quelquefois, il y a des choses, nous sommes bien disposés. Nous disons, mais Seigneur, j'ai prié ce matin, ou je fais ceci et cela. C'est bon, hein, je me sens fort. Puis d'un seul coup, vous avez des circonstances qui arrivent dans votre vie, inattendues, ça vous fond dessus, et hop, vous basculez complètement de l'autre côté. Seigneur, donne-moi de me garder de penser que je suis fort. Ouais, délivre-moi du mal. L'intention de Dieu sera toujours de nous couvrir de la victoire de Christ sur le péché. Et ça, il faut y penser. Il faut connaître ce que nous dit la Bible. Il faut demander au Seigneur que nous soyons toujours couverts par celui qui a remporté la victoire en lieu et place pour nous, parce que nous n'en étions pas capables. Seigneur, je compte sur toi. Et puis s'il m'arrive de chuter, s'il m'arrive de me ramasser, toi tu me relèves, parce que j'ai confiance que tu es capable de me relever, toujours avec cette démarche de repentance. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Ouais. là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Heureusement, merci, parce que merci Seigneur de ce que tu m'as donné une espérance. Hein. Autrement, on n'irait pas loin. Je termine. Nous remarquons que le malin exploite 4 états de vulnérabilité chez l'homme. 4 états. Le premier, c'est l'état de souffrance. Vous savez, la souffrance, hein, ça nous pousse à faire des choses hein, qui ne sont pas toujours dans la volonté de Dieu. Il y a l'état de crainte, qui est le contraire de la foi. C'est pour ça que nous avons besoin de demander au Seigneur, hein, donne-nous toujours une foi vaillante, une foi vivante, une foi agissante. Donc, état de souffrance, état de crainte, un état d'irritation, entendez par là un état de colère ou d'impatience. Troisième point. Et là, nous pouvons nous faire avoir en beauté. Hein. Et il y en a un qui nous guette. Dans la souffrance, dans la crainte ou la peur, dans l'irritation, la colère ou l'impatience. Et un état de convoitise charnelle, quatrième, un désir de jouissance immodérée, c'est-à-dire être porté à tous les excès, qui peut devenir une folie. Voilà les ficelles dont le diable se sert. Et cette prière, elle est complète, parce qu'elle recouvre tout cela. Et nous terminons par simplement la fin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Pas à nous, hein, le règne. Nous ne régnons pas. Le règne, la puissance, nous sommes impuissants. Et la gloire, il n'y a aucune gloire. Mais elle est à Dieu, tout cela est à Dieu, et il est dit Amen. L'idée est la suivante. Celui qui prie ainsi le Notre Père, ces paroles que Jésus nous a données, non pas en répétition ou en litanie, mais dans l'esprit, selon cette brève étude que nous avons faite. Alors celui qui prie ainsi reconnaît et confesse la suprématie de Dieu dans tout l'univers et à travers toute l'histoire. C'est pourquoi il est parlé des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que la souveraineté divine de notre Père céleste s'étende sur notre vie entière pour ce temps et pour l'éternité. Et il y a ce mot que nous avons l'habitude de prononcer très très fréquemment, qui clôt, et il est dit Amen. Et Amen, ça veut dire c'est vrai. Qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Alors, quand on donne le dernier mot, c'est qu'on est d'accord avec tout le reste. Hein. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse à travers cette étude. La prochaine fois, nous verrons un aspect du sermon sur la montagne qui est la colère. Et je pense qu'au mois de septembre, nous entamerons l'étude sur l'Apocalypse. C'est très intéressant. Hein, c'est très intéressant l'étude sur l'Apocalypse. Alors, on fera peut-être les mêmes formules que nous avons fait aujourd'hui, mais nous allons prier maintenant. Et vous savez ce qu'on va faire ? On va prier le Notre Père. D'accord ? Hein ? C'est pas de la tradition, hein ? Ça peut pas être de la tradition ce soir, c'est pas possible. Alors, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce.